Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci de nous écouter toujours aussi nombreux en direct, également en podcast. Nous avons évoqué ce matin le record du monde de Mondo Duplantis. Il y avait débat dans le studio RMC, est-ce que ça commence à devenir lassant ce centimètre par centimètre ou est-ce que c'est toujours aussi excitant? On a évoqué la belle victoire du Paris Saint-Germain à 3 jours d'affronter Liverpool.
Jean-Bierre.
Oui, avec Jean-Bierre, 4 buts. Plus Jean-Bierre quand affronte Liverpool, c'est plutôt pas mal. Bref, rien à voir avec la choucroute. Vous pouvez aller réécouter tout ça tranquillement en podcast. Ce matin, Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Marion Bertoli, Jérôme Pinon, on parle de l'Olympique de Marseille, le match d'après. Dans quelques instants, l'épisode Pablo Longoria, est-ce que ça peut plomber l'OM sur cette fin de saison? 11h30, les GG remontent le temps. Il y a 63 ans, jour pour jour, c'était le 2 mars 1962. Will Chamberlain inscrivait la barre mythique et inégalée de 100 points dans un match. C'était une autre époque, évidemment. Ce record a-t-il encore de la valeur? On se posera la question, les GG. Et puis 11h45, vous le savez, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre. D'après vous, quel est le débat caché du jour? Quel est votre pronostic, votre prédiction, votre croyance? Jérôme Pinot.
Oh, tu vas nous parler des erreurs d'aiguillage des coureurs cyclistes qui mettent à mal les organisateurs et qui ne savent plus où faut aller pour faire le sprint.
Ah oui, ils ont fait une belle hier.
Ouais, ils ont manifesté à Bessèges pour dire que l'organisateur était pas bon, ils mettaient leur vie en danger. Mais ces garçons oublient de regarder le roadbook, donc ils se sont trompés de route à Algarve la semaine dernière au Portugal sur la première étape. Ça faisait 10 ans qu'ils arrivaient là, ils avaient toujours pas repéré. Et hier, encore mieux, 3 passages sur la ligne d'arrivée. 2 passages dans le bon sens, on va dire, pour le peloton. Et puis le dernier, bah, ils se sont trompés de route.
Ils sont tournés à droite à 300 mètres de là.
Ils jouaient la gagne, hein. C'était dans la
victoire
classique.
C'est un Français qui avait lu, lui, le roadbook, Romain Grégoire, qui l'a emporté, mais il y a un sujet à faire là-dessus.
Et on embrasse évidemment Marc Madieu de la groupe AMA FDJ.
Évidemment,
belle victoire pour Romain Grégoire, un peu aidé par, évidemment,
mérité, parce que mérité, mais un peu
qui ont
aidé
suivi la moto, faut pas la suivre. Tu veux en parler, c'est un bon débat caché, ça, Sarah.
Non, moi je vais vous parler, je pense que tu vas nous parler des fléchettes. Parce que c'est en pleine explosion, okay. Les fléchettes.
T'as envie de gagner le débat caché?
Non, mais ils sont capables de lever jusqu'à 5 millions de sponsoring.
Ah oui, c'est vrai.
Tu vois, donc, est-ce que les fléchettes, c'est le nouveau sport à la mode?
Voilà, c'est l'avenir.
Exactement.
Très bien. Bon débat caché, Sarah, pardonne-moi de ne pas y avoir cru tout de suite. Mais maintenant, j'y crois. Marion Bertoli.
Alors moi j'hésite. Est-ce que c'est la fin du Real Madrid? Parce que là, ils ont fait un match, ils ont fait un mauvais match hier.
Ouais, défaite, hein, 2-1.
Est-ce que le PSG sera un immense d'Europe s'ils battent Liverpool? Je suis entre les deux. Mais je vais partir sur le Real. Parce que je pense que tu vas nous glisser à Mbappé quelque part. Donc allez, le Real.
Ah, tu me connais, toi. Hein. Tu me connais, cher Marion. On a bossé ensemble quand même. Hein. Simon.
Eh bien, tout faux, les copains. JC va nous parler de la décision de la FIA d'imposer 2 arrêts lors du prochain Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Il va nous demander si on trouve ça super ou si on trouve ça minable.
Je suis comme ça, moi, dans mes questions.
C'est QFD.
Je suis tranché.
J'ai voulu être efficace.
Non, là, il a fait la sauce Simon. Mais... Voilà.
Et peut-être pourrais-je vous parler, évidemment, de golf. Pourquoi pas? Mathieu Pavon. Il y a 3 Français, Antoine Rosner, Victor Pérez, qui sont en lice, là, pour ce dernier jour.
Tu peux, mais tu vas en perdre certains.
Non, je pense pas. En tout cas,
c'est possible que tu sois pas reconduit après.
C'est demain dans le practice RMC, les copains.
Ah, là, voilà.
Allez, on va débuter cette nouvelle heure avec un proverbe guadeloupéen. J'aime beaucoup ce proverbe qui dit un pardon ne guérit pas la bosse.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Il y a des jours comme ça où rien ne va. T'as l'impression, un monde contre toi. Tu comprends pas.
Prévu, c'est orienté. Va, c'est orienté cet arbitrage.
Ça commence par quelque chose d'innocent qui prend vite une ampleur qui te fait peur.
L'arbitre, il a fait n'importe quoi ce soir.
Ces championnats, c'est corrompu. Quelle corruption, c'est la corruption totale. Qu'est-ce que le championnat de merde?
Pareil que ça tombe sous moi.
C'est pas pour trouver des justifications, même vaut pas des avantages, on vaut un arbitre équitable.
Mais Dieu, pourquoi?
Pourquoi est-ce que c'est pas en plus?
C'est toujours moi.
Corruption.
J'ai dû faire quelque chose dans le passé qui fait qu'il y a des chemins comme ça, rien ne va. J'ai l'impression qu'on se
Tous les yeux seront braqués ce soir sur Stéphanie Frappard, l'arbitre de la rencontre Marseille-Nantes. C'est à 20h45, à suivre évidemment sur RMC. Une semaine, vous vous en souvenez forcément, après l'énorme craquage de Pablo Longoria. Comment les Marseillais vont réagir sur le terrain? Comment vont-ils désormais se comporter avec les arbitres et vice-versa, à l'heure où la pression sportive est maximale sur l'OM? Nice est revenu à égalité hier. Monaco n'est plus qu'à 3 points. Pour l'anecdote, ce soir, Pablo Longoria, Fabrizio Ravanelli, Mehdi Benassia seront tous les trois suspendus pour cette rencontre. Bref, quasiment tout le bord de Marseillais. La musique qui fout les jetons. Et cette question: l'affaire Longoria peut-elle plomber la fin de saison de l'OM? Oui ou non? Jérôme Pinault.
J'ai un peu changé d'avis dans la soirée d'hier, pour avoir eu une personne proche du club, mais oui, je crains quand même que ça va.
Ok, quand même un peu oui. Marion Bartoli.
Plutôt non.
Plutôt non. Sarah Pitkowski.
Oui.
Plutôt oui. Simon Dutin.
Non.
C'est un deux comptes de nouvelle fois dans les grandes gueules du sport. Cette émission est bien faite. On va retrouver notre journaliste RMC Sport, Aurélien Tiercin, qui suit l'Olympique de Marseille notamment. Salut Aurélien.
Rebonjour.
Comment les Marseillais ont vécu cette semaine polémique?
D'abord, c'était l'attente déjà de la sanction pour Pablo Longoria. Ce sera donc 15 matchs, c'est-à-dire jusqu'à la 5e journée de la saison prochaine. Et puis ensuite, le club marseillais a fait savoir rapidement qu'il ne commenterait pas ni ne contesterait la décision. L'idée, c'est de faire profil bas, passer à autre chose enfin. Et c'est aussi le leitmotiv du coach Roberto De Zerbi.
J'en ai parlé avec mes joueurs mardi. Je leur ai dit de ne plus parler de l'arbitrage et de ne plus faire le geste de VAR, de penser au match pendant 90 minutes. L'idée, c'est que chacun fasse ce qu'il a à faire. On a un objectif très important qui est de ramener l'OM en Ligue des Champions. Il faut que rien ne nous éloigne de cet objectif. Ce n'est pas le moment de parler ou de penser aux arbitres.
Bon, l'entraîneur et le club continuent de penser malgré tout qu'il y a des injustices arbitrales cette saison, mais le classement, tu l'as dit ce matin, c'est l'urgence. Marseille est deuxième à égalité de points avec Nice notamment. Il faut donc se remettre à gagner très vite pour le défenseur Geoffrey Kondogbia.
On vit avec la pression constante, ça fait partie de notre quotidien. C'est ce qui permet aussi de nous maintenir avec une intensité chaque week-end. On savait que ça allait être difficile et aujourd'hui on le sait encore plus. Moi personnellement, comme je l'ai dit, c'est une semaine comme une autre. C'est de pouvoir mettre les ingrédients de notre côté pour gagner ce match, pas plus, pas moins.
Et les Olympiens restent soudés malgré tout dans la période, soutenus aussi très fort par leurs supporters cette semaine au centre d'entraînement de la Commanderie. On a vu une banderole de soutien des ultras à Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Fabrizio Ravanelli. On pouvait lire sur cette banderole: le vrai courage, c'est de persévérer malgré les obstacles.
Merci beaucoup Aurélien Tiercin pour toutes ces précisions. L'affaire Longoria peut-elle plomber la fin de saison de l'Olympique de Marseille? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je vais venir te voir Jérôme Pinault, t'as changé d'avis, non, mais tu restes quand même sur le oui.
Oui, je reste sur le oui parce que tous les éléments ne seront pas entre les mains des joueurs et des Marseillais, malheureusement. Je dis oui parce que j'ai atténué ma réponse parce que je pense que le vestiaire va rester solidaire et que de toute façon un match de foot ça se joue quand même sur le terrain et que là c'est 11 contre 11 et que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, quoi qu'on y fasse contre la JOCR la semaine dernière, les deux confrontations contre la JOCR sont terminées par 2x3 et t'étais pas à la hauteur sur le terrain. Donc je pense que le vestiaire peut réagir et se dire c'est à nous de jouer parce que quoi qu'on en dise, c'est pas Longoria qui joue, ni Ravanelli ni Benassia. En revanche, il y a quand même quelque chose qui est permanent dans la tête et qui est entré aussi dans la tête des joueurs, c'est cette injustice ressentie par les Marseillais, l'ensemble, le staff et groupe sportif compris. Et là, ça risque d'être compliqué. Et alors, encore plus maintenant du côté arbitral et comment ça va se passer. On va parler de Stéphanie Frappard et je me dis, mais arbitrer ce match, autant déjà mettre Stinat la semaine dernière, c'était compliqué. On a vu que le corps arbitral, on a eu le représentant des arbitres, etc. Belle déclaration, etc. Depuis, silence complet, il s'est pas passé grand-chose. Ce soir, le match, il va être très, très difficile à arbitrer. On peut me dire tout ce qu'on veut. J'ai entendu M. Stinat dire cette semaine, ça y est, tout va bien, c'est rentré dans l'ordre, je suis prêt et je suis même prêt à arbitrer l'OM. Non, non. Arbitrer ce match-là, le match d'après, ça va être super compliqué. Tous les yeux vont être rivés sur elle. On l'a entendu, De Zerbi a demandé à ses joueurs de même plus faire le geste de la VAR, mais c'est naturel et ça va revenir. Des simulations, il va y en avoir. Des contestations, il va y en avoir. Et à la première décision à prendre avec un litige, si ce soir il y en a une, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils jouent contre le FC Nantes qui apparemment, même si ça a été mieux la semaine dernière, ça va pas être trop compliqué. il va forcément y avoir du litige. Et là, comment gérer pour pas enflammer un stade qui n'attend que ça, un peuple qui n'attend que ça? Ça va être quand même très délicat. Et jusqu'à la fin de saison, ce sera le cas. C'est pour ça que je suis un peu tempéré.
Ok, Marion n'est pas d'accord avec toi. Marion.
Moi, je pense que effectivement, ça aurait été un... beaucoup plus compliqué si c'était l'entraîneur qui était suspendu. Pour moi, une suspension d'un président et même de Ravanelli, même de Benatia, qui est donc, on va dire, l'architecture de la direction de l'OM, n'a pas une incidence directe sur le niveau de jeu. Et je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le niveau de jeu. Là où je rejoins Jérôme, c'est de toute façon le niveau de jeu contre Auxerre n'était pas bon. Le contenu n'était pas bon, ce qui était développé n'était pas bon. Et il faut se concentrer uniquement là-dessus. Leur président, Longoria, oui, il est assis dans les tribunes pour regarder le match. Mais c'est pas lui qui est au quotidien avec les joueurs. Celui qui est au quotidien avec les joueurs, c'est De Zerbi et son staff. Et c'est à lui de faire le travail. Et c'est à lui de garder ses joueurs avec la tête dans le sac pour aller effectivement garder cette place de top 3 jusqu'à la fin de la saison. Aujourd'hui, quand tu es un joueur de l'OM, les contacts que tu as avec ton président au quotidien, ils sont extrêmement limités. Et en aucun cas, je pense que ça va gêner les joueurs dans leur performance pour avoir été un petit peu au contact de l'Olympique de Marseille quand je voyais comment ça se passait avec le président. Les joueurs voient extrêmement peu le président. En revanche, qu'effectivement il y a un problème d'arbitrage, ou en tout cas que les joueurs ressentent un problème d'arbitrage, je pense qu'il faut mettre ce ressenti de côté pour arriver à se concentrer sur la production du jeu.
Mais c'est quand ça la question, est-ce qu'ils vont arriver à mettre ça de côté?
Et pour moi justement, comme impossible. ça a été dit dans le sujet, au vu du soutien qu'ils ont leurs supporters, en fait ça commence à l'OM à vriller et à partir en cacahuète quand les supporters sont contre les joueurs ou sifflent les joueurs ou sont contre le staff, contre l'entraîneur. Parce que là, en fait, t'as une telle bronca dans le stade que les joueurs n'arrivent plus à soutenir la pression. Là, ce qui peut, entre guillemets, les sauver, et je n'excuse en rien les propos de Longoria qui sont pour moi inacceptables, il n'aurait pas dû dire ça, qu'on soit bien d'accord, on ne l'excusera jamais, ça ne sera pas excusé. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne font pas appel de la décision. Mais aujourd'hui, ce qui va faire corps au sein de l'Olympique de Marseille, c'est les supporters et le staff. Et le staff, ce sont les entraîneurs. C'est De Zerbi et son staff. Et pour moi, ils doivent uniquement se recentrer là-dessus. Alors, je n'ai pas une boule de cristal. Hein. Je ne dis pas qu'ils vont absolument, de manière certaine, finir dans le top 3. Mais ce que je dis, c'est que pour moi, il y a une incidence qui est beaucoup plus mineure que si c'était l'entraîneur qui était suspendu.
Simon Dutin.
Moi, je pense que ce serait faire un injure au corps arbitral, aux instances du foot français, d'imaginer que parce que il y a eu ce tapage médiatique, ça va être encore plus compliqué de siffler contre l'OM au Vélodrome.
Pas Jérôme. Forcément, mais le point de vue des joueurs aussi. S'il y a ce sentiment de se faire flouer tous les week-ends, est-ce que ça va pas les faire déjouer?
Je pense que le contrôle d'Aurélien, qui commande souvent des rencontres, à l'annonce du nom de l'arbitre au Vélodrome, c'est rare qu'il y ait applaudissement de tout le Vélodrome. Généralement, tu prends la douche. Parce que c'est ça, c'était l'arbitre de la rencontre. Je pense que les arbitres du championnat de France et Stéphanie Frappard, la première, sont armés, ont tout ce qu'il faut pour siffler en leur âme et conscience s'il y a litige. Je te dis pas que c'est facile, je te dis pas que ça va pas siffler encore plus que d'habitude. Après, est-ce que ça va plomber la saison de l'OM? Vous l'avez rappelé, moi je fais un peu la promo, je faisais l'after OM là cette semaine, on est évidemment revenu sur cette polémique. Et Alexandre Jacquin, notre confrère de la Provence, il nous expliquait qu'évidemment, sur toutes les terrasses à Marseille, tout le monde est d'accord. T'as les exemples, on est revenus. Ils sont fondés à se dire que deux, trois fois, on a sifflé un petit peu trop facilement contre eux. Je repense à l'exclusion de Mopé. Bon, il y a eu des pénalties sifflées, non sifflées. Bon.
Véridique ou pas, cette toujours est-il que ça peut jouer sur les
pas,
joueurs.
On l'aura pas retiré de points, donc ce qui est ce qu'ils ont pris, on leur retirera pas. Longoria, il est interdit de représentation officielle, il est interdit de vestiaire, mais bon, il va quand même avoir le droit justement de voir les joueurs, de faire les déplacements avec eux. Bon, et je pense que, et là c'est facile, mais au nom de la proverbiale union sacrée Marion faisait bien de rappeler que le problème à Marseille, c'est quand il y a une fracture entre les tribunes et le terrain. Exactement. Là, les joueurs, ils vont être encore plus soutenus que d'habitude, que d'ordinaire, si besoin en était, par leurs supporters.
Le seul contre tous.
Et ouais, exactement, seul contre tous. On va, et puis De Zerbi, s'il n'est pas idiot, et ce qui n'est pas le cas, leur dire, les gars, vous, les arbitres, ils sont contre nous, il faut qu'on en fasse encore plus. Voilà, vous devez vous arracher encore plus, et ça ne m'étonnerait pas que ça les booste plutôt que ça les plombe.
Sarah, pas d'accord. Ouais.
Alors moi, je vais mettre un petit doute sur le fait que ça puisse plomber la fin de saison de l'OM. On rappelle qu'on est à la 24e journée, il en reste 10, et que la seule et unique motivation de l'OM, c'est se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc plus les matchs vont avancer, plus la pression va augmenter. Et malgré tout, c'est de se mettre un caillou dans la chaussure alors que la pression est en train d'augmenter. Moi, je vais vous parler de Dezerbi, en fait. Je me demande si aujourd'hui, Dezerbi, qui a bien expliqué que sa volonté n'était pas de rester très longtemps à l'OM, et c'est de vite repartir en Italie. D'ailleurs, il y a quelques articles qui sont en train de pousser en disant que son nom est de plus en plus soufflé pour arriver à l'AC Milan. Est-ce que finalement, lui, s'il ne se désunit pas et s'il n'en a pas un peu ras-le-bol, parce que dans ses conférences de presse, il commence à glisser des choses. C'est que si lui est plus motivé, l'incidence de ce qui se passe sur la gouvernance et que ça redescend sur l'entraîneur, tu peux faire ce que tu veux avec tes gugus sur le terrain. Si lui, il n'arrive plus à les tenir, il peut y avoir une incidence. Et c'est en ça où moi, j'ai un peu de doute. Parce que Dezerbi, quand même, il parle. Il dit, je crois que c'est en début de semaine, il dit qu'il ne va plus du tout parler de l'arbitrage, tout en glissant. On n'a pas perdu à cause de Stinat, mais on a mal joué. Mais son rôle a été déterminant. Donc, il remet comme une petite pièce dedans. Donc, si lui se sent floué et que l'injustice, il l'a toujours...
Il l'a toujours reconnu,
lui,
en plus.
Lui, il l'a toujours. Mais bien sûr qu'il va y avoir une incidence.
Elle s'est malheureusement... En
mais
plus,
c'est une motivation supplémentaire. Bah, c'est une motivation
supplémentaire. Un stress supplémentaire. Oui, c'est si ce n'est pas mis au bon niveau, c'est un stress supplémentaire.
Quand tu joues à l'OM, de toute façon, chaque semaine, tu es stressé. Et depuis le début de la saison, où ça tourne pas trop mal, sauf que c'est quand tu as des saisons catastrophiques où ils jouent le ventre mou du classement, où là, de toute façon, les supporters sont même plus intéressés par les matchs. Et donc, finalement, tu finis par plus aucune pression. Mais à partir du moment où il y a un enjeu, quoi qu'il arrive, il y a de la pression, et d'autant plus à l'OM. Et je pense qu'au contraire, ça va être, comme le disait Simon, et je le rejoins totalement là-dessus, ça va être un booster supplémentaire. C'est-à-dire que, entre guillemets, Le sentiment général, c'est de se faire flouer depuis très longtemps, en particulier depuis le match contre Lyon où à 10 contre 11, l'OM est quand même arrivé à gagner. Et ce sentiment général, il est chevillé au corps. Et je pense qu'au contraire, ils vont se dire, vous savez quoi, ils sont tous contre nous, on va leur démontrer que malgré qu'ils sont tous contre nous, on va y arriver et on va finir en top 3. Alors je te dis pas qu'ils ont raison, mais c'est le sentiment actuel. Et je pense que ça va les galvaniser beaucoup plus que ça va les éteindre.
Hicham nous appelle au 32-16, supporter de l'OM, il veut réagir. Bonjour Hicham.
Salut l'équipe, comment
Salut
ça va?
Salut, tout va très bien, cher Hicham. Tu en penses quoi, toi? Bah toi aussi, est-ce que tu penses que ça peut plomber la fin de saison de l'OM?
Alors, je vais en deux temps. Le premier temps, c'est sur le ressenti des supporters marseillais. Ne nous prenez pas pour des fous. Ne nous prenez pas pour des gens qui ne connaissons pas le football. On est des amateurs de foot, on a joué dans des districts, on a joué à différentes échelles. Quand on regarde l'arbitrage pour l'OM, je vous jure, hein, je ne suis pas complotiste ou conquête. Je vais vous prendre un exemple concret. L'exemple de Harit, 25 minutes de jeu face au PSG. Il ne voit pas Marquinhos arriver. Il se retourne, il met son pied pour contrôler le ballon à mi-hauteur. Il prend un rouge. Le Texier, en conférence de presse après le match, qu'est-ce qu'il dit? Quand j'ai vu la marque sur le torse de Marquinhos, j'ai mis le rouge. Deux semaines plus tard, PSG Monaco, Donnarumma se mange une chaussure. Il est balafré, il a 14 agrafes. Pas un rouge
pour Monaco. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ah oui, mais ils avantagent Paris et tout ça. Là, c'était pas un rouge pour Monaco. À ce moment-là, c'est même le PSG qui est floué sur cette action.
Mais là où je veux mettre l'évidence, c'est que ce qui nous emmerde, nous, en tant que supporters, c'est les incohérences et le manque d'analyse qui vont dans la continuité week-end après week-end.
Hicham, totalement d'accord avec toi, mais je pense que...
Quand un rouge parce qu'il a fait une remise en jeu face à Nice, on gagne 2-0 à domicile en début de saison parce qu'il a mis 8 secondes. Tous les week-ends, il y a des mecs qui mettent une demi-heure à faire des touches. Si on doit mettre des rouges à tout le monde, c'est cette incohérence.
Hicham, tu pointes du doigt un aspect crucial, et moi j'ai envie de te répondre une chose, c'est que aujourd'hui à Marseille, et tu n'es pas le premier évidemment à dire ça, et moi je veux bien te croire, mais Hicham, il y a un truc, c'est que tu parles d'incohérence, et ça je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a parfois des incohérences et qu'on ne comprend plus rien à notre arbitrage. Mais c'est pas ça que vous dites. Vous dites il y a des incohérences parce que c'est nous. En fait, le problème, il est là, c'est de tomber dans la parano. Tu comprends, Hicham? C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des incohérences,
Mais chaque supporter pense ça de son club.
Mais personne n'est là pour dire, en tout cas personne n'imagine que les arbitres ou que les instances ont voulu se faire l'OM. Et tu comprends la nuance.
J'y sais, avant de laisser répondre, Hicham, le carton rouge de Harit, il y a un effet de loupe parce que c'est le OM PSG. Si, moi je comprends les supporters marseillais qui se disent, ils le voient pas arriver, il n'y a pas d'intention. Mais tu te mets du côté du Paris Saint-Germain, tu vois la marque de Marquinhos. Il peut le blesser très gravement. Donc, ce débat, il est symptomatique du fait que la question, elle est insoluble. Il y a une interprétation, il y a une décision qui doit être prise. Et à la lumière de ça, les Marseillais sont fondés à dire qu'ils se sont fait enfler ce jour-là ou que le carton rouge est abusif. Et à Paris, si tu sors pas le rouge contre Harit à la fin du match, il y a Marquinhos qui vient montrer sa marque et tu dis et on prend pas rouge là-dessus. Et tout le monde est insoluble.
Les incohérences, on est d'accord, Hicham. Mais c'est pas des incohérences que contre l'OM. En fait, c'est là où j'imagine il y a un dialogue de sourds.
Même pas un dialogue de sourds. Moi, j'entends ce que vous dites. Moi, j'aime pas de stigmatiser le supporter marseillais en tant que bêta. C'est parce que t'es supporter marseillais que tu vois de cette perspective-là. Moi, je prends du recul. Je suis amateur de foot. Si vous voulez que le foot se comporte bien et qu'il n'y ait pas ce genre de comportements qui sont inqualifiables, c'est le président de l'OM, il arrive, il dit corrompu. Tu peux pas dire ça. Donc, parce que corrompu, ça a une signification. Les mots ont un sens. Corrompu, ça veut dire que les arbitres ont touché de l'oseille pour détourner le résultat final d'un match. C'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que l'incohérence répétée du corps arbitral, week-end après week-end, décision après décision, même en tant qu'amateur de foot, on m'enlève ma casquette de supporter.
Bien sûr, on entend.
Des fois, je regarde des matchs. Le Texier, comment il s'appelle ? Turpin. En Champions League, regardez les matchs de Champions League. Il est joué, il y a des fautes, ça joue partout, il y a du rythme. En Ligue 1, il y en a un qui se fait bousculer ou qui se fait toucher le cheveu, il siffle, le jeu s'arrête, on s'emmerde. Le temps effectif de jeu en Ligue 1, pareil, on n'en parle pas, les arbitres, ils sifflent toutes les 5 secondes. Regardez, tu repars en Ligue des Champions.
Mais je pense qu'ils n'ont pas les mêmes consignes. C'est pas pour les défendre, mais je pense qu'ils n'ont pas les mêmes consignes.
En fait, moi,
ce qui est dommage.
J'ai rien contre ces bonhommes. C'est juste que les hautes sphères, que ça part de la LFP, de la FFF, de ce que vous voulez, du corps arbitral, à un moment donné, les mecs, si vous voulez qu'il y ait un attrait pour la Ligue 1 et pour notre championnat, soyez cohérents dans les décisions, soyez cohérents dans la manière d'arbitrer le week-end et la semaine. On nous dit que Turpin, c'est l'un des meilleurs, et Frappard, c'est la meilleure arbitre en Europe. Là, j'ai vu un classement il n'y a pas longtemps. Les gars, quand tu les vois arbitrer le match le week-end, un Brest-Lille ou un Marseille-Nantes, même ce soir, j'ai peur pour elle, parce que, en fait, ce qui est chiant, c'est que l'accumulation de toutes ces histoires-là, corrompues, pas corrompues, les matchs, les machins, eh ben, Frappard, demain, il y a moyen, enfin, ce soir, enfin, j'espère pas pour elle, mais il y a moyen que sur certaines décisions, et en fait, j'ai peur que ça biaise même notre championnat, parce qu'elle va se dire, je suis à Marseille, il y en a un qui tombe dans la surface, bah, tiens, je siffle, j'ai pas envie de m'emmerder, je siffle, je leur donne un péno. C'est pas ça, l'équité du foot. L'équité du foot, c'est de prendre des décisions identique week-end après week-end, de venir les expliquer.
Okay. La pédagogie. Ça, on en a parlé hier et je pense que Hicham, tout le monde est d'accord avec toi. Il y a Jérôme qui veut te répondre.
Non, mais oui, moi je souhaite aussi intervenir, Hicham. Moi, je suis aussi pas un fanatique, mais je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Tu sais, tous ces sujets de l'arbitrage, on est d'accord qu'il y a un manque de cohérence et surtout peut-être un manque de niveau et de mise à niveau pour l'arbitrage français en L1, ou en tout cas pour certains arbitres. Mais ce qu'il faut bien se poser comme question aussi, au-delà de dire cela, c'est pourquoi il y en aurait plus contre un certain club, notamment l'OM. Il n'y a pas de raison à cela. Donc c'est une vue de l'esprit, de notre esprit à nous supporters, comme j'entends la même chose à la Beaujoire pour les Nantais. Mais si on met tout dans le contexte, il faut savoir une chose, c'est que sportivement le Paris Saint-Germain est au-dessus dans ce championnat. Et de qui a besoin la Ligue 1 pour briller, pour représenter la France en Champions League tous les ans? D'un deuxième grand club, et le deuxième grand club c'est l'Olympique de Marseille, à égalité avec l'Olympique Lyonnais aujourd'hui dans le cœur. Mais la France a besoin et la Ligue 1 a besoin de l'Olympique de Marseille. Donc je pense que rien que de penser qu'on puisse en vouloir du mal à l'OM par l'arbitrage, c'est faux. C'est juste qu'on a cette idée d'interprétation et qui, avec notre cœur marseillais, nous fait pencher vers cette espèce de chansonnette sans arrêt où la capitale nous aime pas et nous on n'a pas de chance et c'est contre nous. Mais dans tous les stades, moi je vais dans deux stades assez régulièrement et l'autre c'est à Nantes, et à Nantes j'entends la même chose.
Mais attends, t'es pour qui ce soir alors?
Ah ben ce soir, je suis bien embêté, figure-toi.
Ah bah oui,
chaque année, eh bien, il faut attendre le premier but pour savoir contre qui je suis.
Ah oui, d'accord.
Et j'avoue que c'est souvent.
C'est là où le vent t'emmène.
C'est souvent l'OM qui marque.
Si Marseille marque un premier but, tu seras pour l'OM.
Bravo. Non, mais là, il y a une telle différence au classement que je serais plutôt pour Nantes, que j'ai envie de voir se maintenir quand même.
Ok, merci à Hicham d'avoir été avec nous au 32-16. Bon match ce soir, c'est à 20h45 qu'il y a sur en direct en intégralité sur RMC. Ce sera après Bartoli Time avec évidemment Marion Bartoli. Merci Aurélien Tirsin d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans quelques instants pour les GG remonte le temps. Il y a 63 ans jour pour jour, le record de Will Chamberlain, les 100 points marqués sur un match NBA. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h34 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi. Merci de nous écouter toujours aussi nombreux. J'espère que vous passez une bonne matinée en notre compagnie. Nous sommes là jusqu'à midi. À partir de midi, il y aura les paris RMC autour de Marseille-Nantes. On en parlait il y a quelques instants. Mais on parlera également dans 10 minutes. Ce sera le débat caché. J'ai quelque chose à vous proposer. Et je pense que ça va vous plaire. Mais je pense que ça va faire débat dans le studio RMC. Mais tout de suite, un moment d'histoire, évidemment. C'était il y a 63 ans, jour pour jour. Will Chamberlain réalisait l'impensable. Inscrire à lui tout seul 100 points dans un match NBA, record jamais battu jusque-là. Et il ne le sera sans doute jamais. Jamais un joueur n'avait autant dominé son sport. Cette année-là, il bouclait même la saison avec plus de 50 points de moyenne. Jamais non plus, la NBA n'avait autant changé ses règles pour contrer cette ultra-domination de Will Chamberlain. Il y avait lui et des enfants à côté. À l'heure où les records, vous le savez, sont une véritable religion NBA, les 100 points du pivot restent à ce jour l'un des records, si ce n'est le record le plus mythique de ce jeu. Alors j'avais envie de vous poser cette question, parce que c'était il y a 63 ans. Est-ce que ce record a encore de la valeur? Un oui, un non pour commencer. Simon Dutin.
Oui.
Oui, Marion Bartoli. Marion est là encore ou pas?
Plutôt oui.
Ok. Jérôme Pinault.
Ah oui, oui.
Oui, encore de la valeur.
Je crois, oui.
Okay,
je vois pas pourquoi on le remettrait en cause, mais.
Bah Simon, tu commences pourquoi oui.
Pourquoi oui? Parce que en effet, à l'époque, peut-être que Chamberlain avait plus d'importance, hein, évidemment, dans le scoring que désormais dans les équipes où la marque est plus généreusement réparti entre les joueurs. Bon, le ballon fait toujours la même taille, le panier est toujours à la même hauteur.
Mais ils ont changé les règles depuis, non?
Et puis, même si, tu l'as dit, c'était un très gros scoreur, c'est la façon de jouer, surtout, qui a un petit peu changé. On shoot beaucoup plus souvent à trois points aujourd'hui en NBA. Même les grands comme Chamberlain, ils ont appris pour exister à s'écarter du panier. On dit ce jour-là il marque 100 points, il prend 63 tirs et fait 36 sur 63, donc ça reste, quand t'es au-dessus de 50% de réussite, quand même une performance. Il va 16 fois sur la ligne des lancers francs, donc il fait 28 sur 32, lui qui ne tournait qu'à 50% de moyenne au lancer franc. Donc ça reste, par rapport à ses standards, une performance extraordinaire, qui, je pense, peut être comparé quand même aux 81 points que Kobe Bryant avait marqué contre les Toronto Raptors dans les années 2000. Bon, je vois pas en quoi on pourrait remettre en question, au nom de quoi, d'une densité de...
D'une opposition
D'une densité, que ce soit en face ou autour de lui, un petit peu moins forte à l'époque. La marque, elle est en plus mythique, c'est pas 101, c'est pas 102, c'est 100. Je la trouve formidable, moi je respecte, quoi.
Ouais. Ok, très bien. Jérôme Pinault.
Pareil, moi je souhaite et j'aime les records qui datent et ceux qui sont quasiment imbattables. Pourquoi? Tant qu'ils ont été inscrits dans le marbre proprement. Ce qui me gêne le plus, c'est les records tendancieux de vitesse, de record de victoire sur des grands tours, par exemple, pour parler d'un sport que je connais bien, des choses comme ça, ou qui laissent une espèce de soupçon d'eux. Là, je trouve que c'est l'un des records qui tombera peut-être plus, même si c'était pas si loin que ça, Kobe Bryant, c'était pas si loin que ça non plus. Moi, j'aime à savoir d'où vient mon sport, d'où vient le sport, qu'il ait des traces marquées profondément. Ce record-là est l'un des records mythiques en NBA, mais aussi dans le sport. Et quelque part, voilà, c'est une époque. On me dit souvent, oui, mais à l'époque, c'était leur époque et tout le monde avait la même motivation, tout le monde avait les mêmes envies, tout le monde avait la chance de pouvoir le faire. En tout cas, au coup de sifflet. Eh ben, tout le monde avait cette possibilité-là. Il était plus grand, il était plus fort, il était plus habile, oui, peut-être. On a vu aussi des très grands malhabiles pas mettre 40 points dans un match aussi. Donc, moi, j'aime cette trace-là. Et n'oublions pas que l'olympisme devient de très loin, que le sport est là aussi pour rappeler aux jeunes loups qui arrivent qu'avant eux, il y avait du monde. Et ce record-là, ben, il est marqué dans cette histoire-là.
Juste un tout petit point pour éclaircir ce que je disais tout à l'heure. Le tir à trois points n'existait pas hein, à l'époque où il fait son record. Le principe, donc tous les
shoots, panier, quoi.
Comptait deux points. Ce que je voulais dire,
c'est
que
ce serait plus facile de faire aujourd'hui avec un trois points.
Plus de chances éventuellement d'atteindre ce total, quoi.
Oui, ça je suis d'accord, mais je vais aller voir je vais vous parler des changements de règles dans quelques instants. Mais d'abord Marion Bartoli sur ce sujet.
Pour moi, effectivement, ce record est souvent cité comme l'un des exploits les plus incroyables de l'histoire. Et franchement, je ne veux surtout pas minimiser ce genre de record. C'est pour ça qu'effectivement, j'ai dit plutôt oui. Parce que, comme l'a dit Jérôme et comme l'a dit Simon également, il fallait arriver à les mettre autant de paniers. C'est un mythe, c'est une référence absolue dans le basket. Alors pour moi, celui qui s'en rapproche le plus, effectivement, c'est Kobe en 2006 contre les Toronto Raptors qui arrive en templaté 81, ce qui est absolument monumental. Mais moi, j'adore ces scores références, ces moments historiques, ces moments qui nous font replonger dans le temps en disant bah, finalement effectivement la NBA c'est pas que LeBron James, Michael Jordan et Kobe Bryant, ça a été aussi autre chose auparavant et que c'est tout aussi beau, donc je ne veux pas minimiser ce genre de record et comme l'a dit aussi Simon, à l'époque c'était uniquement que deux points, donc si les joueurs aujourd'hui ont la possibilité de marquer les trois points comme le fait Steph Curry par exemple, peut-être qu'il y aura la possibilité aussi d'aller chercher à un moment donné.
À un moment donné, le record de Pelé avec ses 1000 buts faisait un peu sourire en disant oui mais on compte les buts à l'entraînement aussi.
Dans le jardin, ouais.
Non mais vous voyez ce que et donc mais parce qu'on dit aussi ah oui mais c'était une autre époque les 1000 buts et tout ça même si
mais ça tient
Ronaldo.
Pas à une autre époque, c'est-à-dire que si aujourd'hui on met ces joueurs là extraordinaires dans leur époque, ils auront des records de leur époque mais tout le monde a progressé mais ensemble, je veux dire c'était pas on met pas Messi ou Ronaldo dans le championnat d'il y a 45 ou 50
et puis,
ans.
Tu peux toujours trouver des circonstances atténuantes je sais plus c'est Lewandowski qui avait marqué un quintuplé en 9 minutes avec le Bayern, tu vois, contre Wolfsburg il y a quelques années.
Bien sûr.
Et tout le monde avait dit oui mais bon, il joue au Bayern le mec, ça joue pour lui, ils sont dominants. Bon bah non, tu marques 5 minutes en 9 minutes et voilà, il y a on genou à terre, on s'incline quoi.
En tout cas des records, en tout cas la valeur des records, elle est importante dans le sens où on peut les refaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé des règles qui font qu'ils ne sont plus réalisables du tout. Moi, je vais prendre un autre exemple d'un match de tennis. Vous vous en souvenez, le match le plus long entre Nicolas Mahut et John Isner qui a duré 11h20, on était au premier tour de Wimbledon. Mais ça ne pourra plus jamais se refaire parce qu'on a changé les règles. C'est-à-dire qu'on a modifié les règles justement pour pas arriver à c'est pas une ineptie, mais à ce match qui finalement a plombé tout un tableau et qui s'est joué sur trois jours. Donc la valeur d'un record, à partir du moment où on peut le refaire, même si on a ajusté des choses, reste un record qui est gravé
et là,
dans le marbre.
Et là, pour le 400 mètres, c'est même pas ajusté les règles, mais
c'est
les
même
règles
pas
sont
ce
plus
match-là
facile,
qui a fait changer la règle.
Oui.
C'est même pas ce match précis qui a fait changer la règle. Le match précis qui a fait changer la règle à Wimbledon, c'est le match en demi-finale entre Anderson et Isner, précisément, qui a fait du coup décider Wimbledon de mettre un tie-break beaucoup plus tôt, avec une fin du match nettement plus tôt au 5e set. C'est même pas le match
important.
De Nico,
c'est important d'être précis.
Nico contre Isner.
Non mais moi je parlais du changement de règle justement de Will Chamberlain. Jamais un joueur, alors on sait qu'il y a eu des joueurs, des époques où il y a eu des ultra-dominations, Jordan évidemment, on pense à Kobe Bryant, on pense à LeBron James, des joueurs qui ont permis la révolution d'un sport.
Curry, le roi des trois points.
Exactement,
c'est
et Will Chamberlain, à cette époque-là, on avait élargi la raquette pour justement qu'il parte de plus loin et qu'il arrête de se retrouver au pied du cercle pour marquer, parce qu'il avait une telle dimension athlétique par rapport aux autres que ça en devenait même ridicule. J'ai vu aussi qu'ils avaient changé lors d'une remise en jeu, on pouvait plus et on n'avait plus le droit de lancer la balle au-dessus du panier parce que lui il était si puissant, il avait une détente si impressionnante par rapport aux autres qu'en fait ses coéquipiers, ils avaient juste à lancer le ballon.
Il y avait une règle anti-Chamberlain quoi.
Exactement, ils avaient juste à lancer le ballon et lui il la récupérait, donc on avait plus le droit de faire de remise en jeu en balançant la balle au-dessus du panier. Je veux dire, ça veut dire qu'on s'est adapté aussi à un phénomène, quoi.
Ouais, et à l'époque, malheureusement, on faisait pas les grandes gueules, mais on aurait pu faire un débat. Est-il une légende? Bah oui, ça fait partie de sa légende. C'est ça, une légende. Okay. On a dû adapter un règlement d'un sport à un type qui était extraordinaire, qui, on en a pas vu depuis. C'est pour ça que ce record-là, il est inscrit. Est-ce qu'il est légitime par rapport à l'ère d'aujourd'hui? Bah peut-être pas pour certains, mais en tout cas il est là et il existe bien et rien n'interdit aujourd'hui, puisque la règle a évolué grâce au panier à trois points, d'être battu. Mais ça laisse, encore une fois, pour moi, c'est plutôt sentimental et nostalgique et historique. C'est un marqueur de l'histoire de ce sport.
Très bien, j'ai parfaitement compris les copains. C'était important et c'était marrant ce matin de parler de Will Chamberlain et de ce record absolument incroyable. 11h44, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport avec le débat caché.
La Formule 1 à Monaco.
Tu penses que c'est la F1 à Monaco? C'est un très bon débat.
Simon, il veut tout gagner.
Les deux arrêts obligatoires. Tu veux pas nous reparler d'hockey sur glace? C'est peut-être le hockey sur glace, d'ailleurs.
Peut-être que c'est du hockey sur glace. Petit cachotier.
Mais non, mais peut-être que c'est le débat de Sarah.
Qui sait?
J'ai même une autre idée, moi.
Ah, c'est quoi?
Ah bah il y a quand même Messi qui remet quand même un tacle sur le PSG quand même. Il va pas arrêter un peu deux secondes lui?
Oh, vous avez trop de débats. On pourrait faire une émission de 8 heures. Ce serait absolument incroyable. Et je reviens sur une erreur de Jérôme Pinault tout à l'heure où il disait attendez en 62 heureusement enfin dommage il y avait pas déjà les GG. À mon avis Christophe Cessieux devait déjà pas être très loin.
Il commentait la rencontre.
Il était en train de écrire les
camembert.
C'était les prémices.
Les absents ont toujours tort. Il nous dit quoi Christophe Cessieux?
Camembert
Oui camembert. Merci Christophe. On retrouvera la semaine prochaine. 11h45. On se retrouve dans quelques instants. Pour la suite des grandes gueules du sport, le débat caché.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47 de retour dans les grandes gueules du sport. C'est la dernière ligne droite à partir de midi. Restez bien avec nous. On vous parlera notamment de Marseille-Nantes. On vous donnera toutes les meilleures cotes avec la Dream Team des Paris RMC. Toujours ce matin avec une excellente équipe. Sarah Pitkowski, Marion Bartoli, Jérôme Pinault, Simon Dutin. Et tout de suite ce moment que vous attendez peut-être tous. Oh oui, et vous l'attendez depuis ce matin très très tôt. C'est le fameux débat caché.
On en fait... Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Plaît-il, Jérôme?
Plaît-il?
Je n'en peux plus d'attendre. Je suis
J'ai senti cette impatience.
Ah bah depuis ce matin,
il trépigne.
Depuis le réveil ce matin très tôt, je n'attends que ce débat.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Vous le savez, réagir sur l'instant, sur l'émotion. Et peut-être vous écharper, sait-on jamais, avec un peu de chance. On jette la pièce en l'air, le débat caché du jour. C'est ça.
Moi je suis plus très loin de te clamer sur les gueules là. Baisse les yeux. Non, et la courtoisie de me regarder dans les yeux quand je te parle. Baisse les yeux. Regarde-moi dans les yeux.
Ce garçon-là aime les claques.
Donne-moi. Ah oui, une très belle chanson évidemment au demeurant. Mais connaissez-vous le slap fighting? Littéralement, ça veut dire le combat
aux États-Unis.
De claque, cette discipline en pleine croissance. Tu as raison, Marion, aux États-Unis. Pourrait voir le jour, un jour, très beau, en France. À en croire Lionel Brézéfin, c'est le DTN adjoint de la Fédération Française de Boxe en charge du MMA, qui était l'invité cette semaine de Fighter Club, le podcast RMC des sports de combat. Voici ce qu'il disait.
J'ai eu une sollicitation d'un organisateur qui m'a dit on a envie de faire ça. Du coup, je dis à la direction des sports, est-ce que c'est faisable? Je posais la question, en fait, et ils connaissaient pas du tout l'activité. Donc, je leur ai envoyé 2-3 vidéos. Ils étaient à 10 000 km de penser que ça puisse exister.
La direction des sports, je précise, qui a notamment pour mission d'assurer la sécurité du cadre de la pratique des activités sportives. Donc forcément, le MMA est passé par là, parce que avant que ce soit légalisé en France, le MMA, il y a eu beaucoup de chemin à parcourir. Et on rappelle que le MMA a attendu janvier 2020 pour être autorisé dans notre pays. Le débat caché du jour. Avez-vous envie de voir des combats de claques en France? C'est simple. Ça fait un carton sur les réseaux sociaux aussi. C'est oui, c'est non. Sarah Pitkowski.
Non, je n'ai pas envie de voir ça en France, mais je suis très curieuse de voir ça aux États-Unis et de voir les vidéos, ça me ferait bien rire. Mais non, en France, non. Non.
Simon Dutin.
Oui.
Marion Bartoli.
Mais non, surtout pas, s'il vous plaît. Un peu d'essence quand même.
Jérôme Pinault.
Ouais, je vais être un peu provoque, ouais.
Ouais. Les deux textes.
Oh, c'est Jérôme, franchement.
Non, mais c'est la porte ouverte à n'importe quoi.
Le MMA, c'est déjà chaud, les filles.
On va laisser la porte ouverte aux deux têtes à claque, justement. Jérôme Pinault, pourquoi?
C'est totalement provoque, parce que perso, je vais pas regarder un truc où les mecs se mettent des soupes de phalange. Je vois pas le délire. C'est pas du sport pour moi. C'est quand mon père arrivait avec sa main, je peux dire que là, il y avait du sport, mais parce que je courais. Et j'ai pas envie d'assister à ce spectacle-là. Mais comme il y a des. Enfin, aujourd'hui, on voit des choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui suivent des émissions des sports. Là, on parle de sport, mais il y a aussi des gens qui vont avec leur nana sur une île pour savoir si ils vont être fidèles, tu vois. Et ça, les gens suivent. Donc pourquoi pas un truc où on se met des tartuches, quoi. Je veux dire.
Mais tu vois, on en est là aujourd'hui.
Non, mais c'est pas parce que la télé-réalité fait n'importe quoi.
Non, mais à partir du moment où ce sont des programmes phares et que l'indécence est déjà dépassée, pourquoi pas, je veux dire.
Après, mais mettre KO quelqu'un en lui mettant une gifle, écoute, franchement, on m'appelle pas ça du sport, arrête.
Bah, écoute,
mais
il y en a qui font du lancer. Un très beau combat de boxe, j'adore la boxe, et il y a des gens qui finissent KO. T'as des gens qui font du MMA, c'est très violent, mais ça reste un sport et ce sont des athlètes de très haut niveau.
MMA ou la boxe, tu peux te défendre. Là, tu restes, t'es figé, t'as quelqu'un qui te met une gifle, il n'y a aucune défense, il n'y a rien, c'est ridicule, c'est pas du sport. Tu parles de sport de combat comme la MMA ou le boxe, tu peux te défendre, c'est un combat entre deux personnes avec des techniques.
Après,
t'attends que le mec te mette KO pour te mettre une gifle.
Je te rejoins pas, Marion. Attends, je suis pas en train de te dire que je suis fan de ce sport. Hein. Je te dis juste que.
Ah non, je t'ai pas dit ça.
Il va prendre sa licence.
Ah, je suis pas allé voir, non. Et, par contre, les deux mecs qui y vont, ou les deux femmes, parce que je sais que c'est mixte, hein, il y va pas de force, quoi. Le mec qui va combattre ou prendre une tartouille, il y va.
Admettons, c'est pour ça qu'on a l'amené en France. C'est pas parce que les Américains veulent faire ça qu'on doit l'amener absolument en France.
Admettons que ça soit une opposition, une forme de combat. Tu peux le comparer à la boxe, mais sauf que la boxe, le but du jeu, c'est d'esquiver le coup. Là, en fait, moi, je me suis renseignée, je pensais qu'on pouvait esquiver la baffe. En fait, tu l'esquives pas, t'es obligé de la prendre. Donc, en fait, elle est où la stratégie? C'est à celui qui a le cerveau le plus accroché ou c'est à celui qui a la main la plus.
C'est le mental, hein, oui.
Tu vois? Donc, en fait, ça peut pas avoir définition de sport. Enfin, tu vois, il y a même pas l'esquive.
Personne n'a dit. Ben, moi, je suis pas en train de vous dire que c'est du sport. Hein. Je suis en train de vous dire, est-ce que vous avez envie de le voir en France?
Non, mais tu as des activités qui font sourire en Grande-Bretagne, ils font le lancer de tronc. Tu sais,
le bûcheronnage.
Oui, mais je veux dire.
C'est arrivé en France, il y a beaucoup d'émissions, notamment la chaîne L'Équipe qui a diffusé des compétitions.
Et donc, tu sais, à celui qui lance le plus loin, il y a quelque chose dans la force. Enfin, tu vois, ça s'explique dans une forme de performance. Là, je vois pas où est la performance de juste balancer des baffes et de pas pouvoir les éviter.
Ouais, voilà. Regarde quelques vidéos, c'est très difficile à soutenir. Hein. C'est compliqué, mais.
Oui.
Non, mais qu'on aime ou qu'on aime pas, bon, à partir du moment où c'est autorisé ailleurs, voilà, c'est ça. Surtout pourquoi.
J'ai tout accepté,
mais oui,
non plus.
Mais on a ras-le-bol, on interdit tout.
Au nom de la prévention.
Bon, si les mecs ont. Tu vois,
ils y vont pour ça, ils vont prendre de l'oseille à prendre des tartouilles.
Si c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, voilà, exactement. Bon, après, il faut être sacrément musclé du coup, il faut bien visser le truc. Je pense qu'il faut des catégories, il ne faut pas mettre, tu vois, Jérôme Pinault contre Fred Weiss, tu vois, ça peut.
Détrompe-toi.
Méfie-toi.
Non, mais bon, je parlais de morphotype, hein. C'est vrai qu'il ne doit pas être bon à prendre, Jérôme. Non, mais.
Il ne faut pas qu'il loupe la première.
Non, mais voilà, donc voilà, moi, je ne suis pas vraiment fan, mais ça m'emmerderait nous disent ah non pas chez nous, pas de ça chez nous, tu sais. C'est Evelyn Hall qui avait fait une biographie de Voltaire. Elle a dit: je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous ayez le droit de le dire, voilà. Et moi, j'ai envie qu'on autorise ça à partir du moment où c'est autorisé ailleurs. Nous au lycée, on jouait au babybouf, tu vois, c'est le babyfoot, mais où t'as le droit de mettre des baffes à ton adversaire, voilà.
Ah, donc t'avais peut-être un peu
quand tu mets un but au babyfoot,
j'étais meilleur au babybouf qu'au babyfoot, tu vois.
Voilà. Une question de baffe, une question. Pourquoi d'agilité.
On réfléchit à monter une vraie fédération.
Il y a Coco qui nous dit qu'il faudrait finir les GG par cette épreuve.
Bien sûr.
Pourquoi pas.
Oui, mais on a le droit de les éviter.
En vrai, c'est exactement pareil que le bras de fer, la violence en plus.
Non, c'est plus violent que le bras de fer, beaucoup plus violent.
Bah oui.
On appellerait ça le débaff caché.
Le débaff caché. Oh, excusez-le. Oui.
Non, mais dans le sens provocateur, c'est
la titraille fantastique.
Moi, ça, c'est pas si cette activité existe déjà, qu'elle arrive en France. Ce que je veux dire, c'est je ne comprendrais pas qu'on soit outré de voir cela, alors qu'on voit tellement d'autres choses qui sont beaucoup plus dégradantes pour un certain nombre de personnes. que finalement, ça ou autre chose, voilà, ça me choque pas.
C'est peut-être
en revanche,
pudeur.
Je suis pas fan et je vais pas prendre une carte et j'irai jamais voir ça dans une salle ni à la télé.
C'est peut-être ma pudeur, mais moi j'aime bien le show autour. Mais quand arrive la baffe, je détourne les yeux parce que
c'est horrible.
La mandale est horrible. Donc voilà.
Encore une fois, n'oublie pas, j'y sais que là, on vient pas te. Il vient pas se faire punir, c'est pas la mandale de papa parce que t'as mal fait les devoirs, quoi.
Oui,
c'est,
oui.
Il y va, il sait qu'il va prendre des mandales, hein.
Oui. Bon.
C'est différent.
Voilà, on voulait vous proposer ça. Ah, c'est l'alerte.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, c'est quasiment la fin de cette émission, mais c'est plus, le grand contre, c'est moment pour l'expérience RMC, la vivre à fond. C'est mercredi prochain à l'occasion de Paris Saint-Germain, Liverpool. Vous venez dans les studios RMC avant la rencontre. Ensuite, direction le Parc des Princes avec la personne de votre choix. Puis vous revenez sur RMC pour suivre en direct l'after et le débrief de cette rencontre. C'est mercredi soir. Ça peut vous aussi vous arriver. Pour jouer, vous envoyez PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Bonne chance à tous. Il est 11h56. Merci beaucoup les GG. Simon Dutin, Marion Bartoli, Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski. Merci.
Salut
à vous.
Les amis.
On se retrouvera la semaine prochaine à partir de 9h pour les grandes gueules du sport samedi matin. Ce sera le jour d'Irlande-France. Ce sera magnifique. Et ce soir, l'événement évidemment dans Bartoli Time avec Marion Bartoli, Benoît Boutron. L'interview exclusive avec Tadej Pogacar. Passez une très très bonne journée. On se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC autour de cette journée de Ligue 1 et notamment Marseille-Nantes. À tout de suite.